Ouvrir la parole de Dieu. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ta parole. Toi-même, tu as dit à tes disciples, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Seigneur, merci pour cette parole qui nous conduit, qui nous édifie, qui nous renouvelle, qui nous dirige. Nous nous en remettons à toi, Père, pour que tu nous ouvres les oreilles et les yeux, notre cœur, que nous puissions la recevoir au nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire trois textes. Alors, deux textes qui sont des répétitions, mais la parole de Dieu est vivante, et même si on la répète, elle a besoin de transformer nos cœurs. Alors, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 16, je lis le verset 15 en même temps. N'aimez pas le monde, si ce n'est ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Ensuite, le deuxième passage que nous avons lu aussi et qui est important, c'est le passage de la tentation de Jésus dans Matthieu 4, hein, où vous avez, après les 40 jours de jeûne et prière de Jésus, le tentateur qui s'approche au verset 3, qui lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain ». Ensuite, la deuxième tentation qui est au verset 5, le diable transporta dans la ville sainte, hein, une télétransportation, le plaça du haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, etc. Et au verset 8, le diable transporta encore sur une montagne très haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai tout cela. Si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai. Et un troisième texte ce matin qui va compléter cela dans Actes 14. Alors là, on veut le lire en entier pour bien voir quel est l'enseignement que nous avons à partir de ce passage d'Actes 14. On lira à partir du verset 8. Le contexte de ce passage, c'est Paul. Hein, qui se déplace dans l'ensemble de l'Asie mineure et qui se trouve à Lystre. Quelqu'un sait où est Lystre ? Vous n'en faites pas, je ne savais pas non plus, j'ai dû chercher sur la carte. Mais bon, c'est important parfois d'imaginer où se trouvent les villes, où ça se passe. Quelqu'un sait où est Lystre ? Pardon ? Oui, mais la Turquie est grande. Hein. Quelqu'un sait où est Lystre ? Parce que ça peut être ou à gauche, près d'Éphèse, hein, qui est en face de la Grèce, ou à droite, complètement au milieu, voilà. Quelqu'un sait où est Lystre ? Non. Ben, je vais vous le dire. C'est au-dessus d'Antioche, hein, c'est dans la partie de la Phrygie, ce qu'on appelle la Phrygie. Quelqu'un sait pourquoi, entre la France et la Phrygie, il y a quelque chose. Le bonnet phrygien, vous savez ? Bonnet phrygien ? C'est la Révolution, ceux qui ont porté la Révolution, ils avaient mis des bonnets phrygiens. Vous voyez, on a des rapports avec la Phrygie, la Turquie. Hein. C'était les esclaves qui étaient libérés. Hein. C'était pour dire, voilà, la France est libre. Enfin, il y a tout un symbole, hein, de bonnets phrygiens. Donc la Phrygie, c'est cette partie de la Turquie maintenant, hein, qui est l'Asie mineure, qui était sur le côté droit, qui est un passage entre l'Est et l'Ouest. C'était un très grand passage pour la Chine, etc. Pardon ? Oui, ça fait partie de la Galatie, mais aussi de la Phrygie, la Grande Phrygie. Hein. Les Grecs, c'était la Grande Phrygie. Bon, enfin bon, suivant les époques, vous savez, on les appelle c'est comme la France s'appelait la Gaule avant. Hein. Maintenant, ça va s'appeler l'Europe. Bon, tout dépend dans quelle géographie on se trouve. Voilà. Donc, il y a la Phrygie, il y a la Galatie, la Grande Galatie. La Galatie, c'est au centre. C'est plutôt à l'est. Donc, on est à Lystre. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. Donc c'était un vrai malade. Hein. Je dis ça parce que des fois il y a des faux malades. Vraiment quelqu'un qui est infirme. Il écoutait parler Paul qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue liaotienne : les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'est lui qui portait la parole. Le prêtre du Zeus, qui est devant la ville, amena des taureaux, des guirlandes vers les portes et voulait d'eux-mêmes que les foules offrirent un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, l'apprirent. Ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes : pourquoi faites-vous cela ? Nous sommes nous aussi des hommes de la même nature que vous et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il vous faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. À peine purent-ils par ses paroles empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium les Juifs, qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et les traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entourèrent, il se leva et rentra dans la ville. Amen. On s'arrête là. Hein, c'est une belle histoire. Hein. Vous voudriez être à la place de Paul ? C'est ça, l'évangélisation. Hein. On a des petites surprises, mais le Seigneur est là. Hein. Vous dites amen ? Vous voulez être Paul ? Vous voulez être un évangéliste ? Aïe, aïe, aïe. Pendant qu'on était dans le séjour à Bethel, j'ai discuté avec le pasteur et sa femme, qui sont missionnaires et pasteurs à Limoges. Et voilà, ils ont aussi un peu des surprises là-bas, parce que je ne connais pas trop Limoges, mais ils m'ont appris par les slides qu'ils nous ont montrés que c'est un pays particulier où on pratique les ostentations. Vous savez ce que c'est les... Vous savez, on parle d'ostentation, les femmes qui ont les voiles, qui montrent extérieur. Pardon ? Les signes ostentatoires, voilà. Donc on pratique les ostentations. Vous savez ce que c'est les ostentations ? C'est un peu gore, hein ? C'est un peu gore. Pardon ? Non ? Non ? Non ? Ouais, très bien. Ah, on voit qu'il y a la culture générale. Je ne le savais pas. Effectivement, au XXIe siècle où on est, l'Église catholique fait l'ostentation des reliques. Et tous les quatre ans, ils promènent dans la ville et tout ça. C'est étonnant dans une France rationnelle, hein, de Descartes, qu'on voit ça, mais voilà, il faut être conscient de ça. Comme au Puy-en-Velay, un jour, le 15 août, le maire donne les clés de la ville à l'évêque. C'est-à-dire, c'est lui qui dirige. Hein. S'il décide quelque chose, c'est lui l'autorité. Et c'est en France, hein, rationaliste de Descartes. Ben là, à Limoges, c'est un peu pareil. Les catholiques, l'évêque, bien sûr, c'est lui qui préside, pendant plusieurs jours, ils baladent les reliques des saints, beaucoup de saints. Le saint, en l'occurrence de Limoges, je l'ai oublié maintenant, c'est un saint particulier. Non, c'est pas Rémi. Mais... Et dans ces reliques, il y a les ossements. Ils les ouvrent sur l'autel, donc il y a les crânes et tout ça. Ils élèvent les crânes et tout. Voilà, ils font l'ostentation des saints. Des reliques. Donc voilà. Vous voyez, on communie avec les morts. On communie avec. Et ça, c'est dans la France rationnelle. Alors après, vous étonnez qu'il y ait des problèmes. Lui, il avait un homme qui s'est converti vraiment très très bien. Bonne conversion. Et il se posait la question du baptême. Donc il est venu le voir, le pasteur, discuter. Et. Vraiment une conscience formidable. Et cet homme avait un pouvoir de guérison. Il guérissait des cancers, hein, mais vraiment des guérisons. Par contre, le pasteur était un peu surpris que sa sœur, qui avait un cancer, ne pouvait pas le guérir. La Famille, non, mais les autres, oui. Voilà. Essayez de comprendre, mais il n'a pas compris, moi non plus. Donc, il avait ce pouvoir de guérison des cancers. Et donc, il vient le voir, le pasteur, pour prendre le baptême. Et une fois que la formation était finie, il lui a posé une question au pasteur, mais est-ce que quand je prendrai le baptême, est-ce que j'aurai toujours ce pouvoir de guérison ou pas ? Le pasteur lui a dit, écoutez, c'est Dieu, hein ? C'est lui qui donne les dons. Moi, je ne sais pas. Peut-être pas. Hein, il a répondu, voilà. Avec beaucoup de sagesse, on ne sait pas. Il a dit, ah, mais dans ce cas-là, je ne me baptise pas. Je vais garder mon don. Vous voyez, on est dans une France 21e siècle, rationnelle, etc. Et là, on a affaire vraiment à l'évangélisation. On rencontre les puissances, on rencontre voilà, les oppositions. Hein. Alors, il ne s'est pas fait lapider, mais voilà, c'est la réalité. Et là, Paul, eh bien, il sort indemne, mais avec un combat quand même assez important. On va voir comment. Pardon ? Il a des soucis ? Ah, ressuscité. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Enfin bon, je ne rentrerai pas dans ces considérations, mais pourquoi pas. Je reviens à la tentation de Jésus et vous rappelez la stratégie de l'ennemi qui est toujours la même. C'est pour ça que c'est bien d'étudier la parole, parce que autant Dieu est créatif et qu'il change tout ce qu'il veut à n'importe quel moment puisqu'il crée. Donc avec Dieu, on ne peut pas le mettre en boîte. Satan, on peut le mettre en boîte. Quand on a une bonne théologie, on ne peut pas se faire avoir. Attention, il ne faut jamais être présomptueux vis-à-vis de Satan, ça c'est clair. Mais la parole de Dieu nous donne vraiment la possibilité de voir ces stratégies parce qu'elles sont toujours les mêmes. Dans le jardin d'Éden, dans la Genèse, vous avez une stratégie et qui est reproduite ici, avec Jésus. Vous voyez, c'est exactement la même. Et c'est la stratégie que Jean dénonce quand il dit « Attention, parce que l'amour du monde est inimitié, est opposé et absolument contraire à celle de Dieu. » Et cette stratégie, c'est quoi ? Je vous écoute. La convoitise des... Bon, d'abord c'est la chair, mais convoitise de la chair. Ensuite, des yeux et ensuite, orgueil de la vie. Ok ? Jésus, quelle est la première tentation qu'il a eue ? À quoi s'est attaqué Satan ? Pardon ? Non, mais restez près du texte pour l'instant. On verra la conceptualisation tout à l'heure. Pardon ? Oui. Donc il voulait qu'il transforme des pierres en pain. D'accord ? La deuxième stratégie de Satan vis-à-vis de Jésus, c'était quoi ? C'était ? Vous avez ça dans vos Bibles ? La deuxième. Deuxième tentation. Allô ? Bah, relisez le texte, alors je vous laisse lire, parce que c'est vous qui devez le découvrir. Pardon ? Non. Pardon ? Se jeter du temple. Hein. Pas n'importe où, hein, du temple. Hein. Parce qu'il aurait pu lui dire, voilà, tu te mets sur une montagne, dans le désert. Non, du temple. C'est stratégie. Stratégie, ça veut dire qu'il y a une intention hein, derrière. C'est pas n'importe quoi. Et voilà. Troisième tentation. Et comment il fait ? Il l'a monté sur une montagne. Hein. Donc là, c'est la montagne. Parce que les montagnes dominent hein, tous les royaumes du monde. Ok ? Voilà. On est d'accord ? Là, on est dans le texte biblique. Et dans les choses objectives. Pas subjectives, ce que nous, on pense, mais ce que les Bibles déclarent. Ce qui s'est passé historiquement, objectivement, avec Jésus. On va reprendre un petit peu ça pour bien ancrer notre conscience biblique. Les deux premières tentations, ici, qui d'ailleurs sont celles-là aussi, elles s'attaquent à l'identité. L'identité, et ici à la mission. D'accord ? Notre premier problème, quand on vient au monde, vient dans ce monde, on cherche du sens. Il y en a qui ont cherché du sens dans leur vie. C'est ça qui m'a amené à Jésus. Chercher du sens. Donc on cherche pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, est-ce que c'est pour manger, boulot, métro, dodo, puis mourir? Voilà. Et on cherche du sens. Donc c'est l'identité. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Okay. L'identité, c'est très important de connaître son identité. Et vous savez que notre identité chrétienne, hein, pas la nôtre en général, c'est d'être en Christ. Hein, c'est en Christ qui est notre véritable identité, puisque c'est le nouvel Adam. Hein, parce que naturellement, nous sommes dans l'ancien Adam, on ne fait rien pour ça, on est dans l'ancien Adam. Mais cette identité ne nous apporte rien si ce n'est que la mort, alors que nous voulons la vie. Donc notre identité en Jésus donne la vie. C'est ça qui donne du sens. Hein. Il y en a qui veulent vivre ici? La vie, c'est Jésus. Donc ça, c'est l'identité. Et la deuxième grande préoccupation, ce qu'on appelle une préoccupation existentielle, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'existe, c'est la mission. Quelle est la mission? On a tous une mission. Si on n'a pas de mission, voilà, on se demande ce qu'on fait là. Bon, on existe peut-être, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va rester après moi? Est-ce que je sers à quelque chose? Et ça, c'est important, et ça fait partie de ce que Dieu nous a créé pour quelque chose. Okay, ça donne du sens aussi, la mission. Alors, vous êtes d'accord? Voilà, donc ces deux points qui sont particulièrement sensibles, Satan les attaque. Et si on n'est pas très sûr de notre identité, et si on n'est pas très sûr de notre mission, ça fait de nous des chrétiens bancals. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont bancals. Ils cherchent l'identité et la mission souvent à l'extérieur d'eux-mêmes, au lieu de le trouver à l'intérieur. Il faut que la motivation, le moteur, hein, motivation vient de moteur, comme dans une locomotive, il faut qu'il soit dedans. Okay, donc il faut que nous devions être motivés pour savoir notre identité, notre mission. Et Satan attaque toujours ça en priorité. C'est pour ça que c'est très très important d'être fondé dans l'identité et la mission. Le Seigneur Jésus est venu pour une mission. Cette mission, c'est laquelle? Quelle était la mission de Jésus quand il est venu sur la terre? Pardon? Pardon? Sauver l'humanité. Donc, on le résume par quoi? Par quelle mission qui a été annoncée par l'Ancien Testament? Oui, c'est la croix. Par le salut. Rédemption, oui, tout ça, c'est tout à fait juste. Dans l'Ancien Testament, c'est tout le sens de la parole, hein, de l'Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est une seule histoire prophétique, hein, qui nous est. Et il y a quelque chose qui est annoncé dans l'Ancien, qui est arrivé à la croix. C'est quoi? C'est la venue du Messie. Bon, c'est un mot important, le Messie, parce que bon, vous entendez aussi parler de messianisme, du Messie, des juifs messianiques. Voilà. C'est quelque chose qui parcourt toute la Bible, hein, le Messie. On n'a pas trop l'habitude d'utiliser Messie, mais bon, je vous encourage à bien l'intégrer. Messie, c'est le synonyme, ça veut dire le même mot, qui veut dire Christ. Ok? Donc Christ ou Messie, c'est pareil. Et Christ, ça veut dire quoi? Parce que Christ, bon, c'est du grec, hein. Mais qui connaît le grec ici, à part Colette? Moi, je ne sais pas. Bon. Donc c'est important de le traduire en français. Et c'est quoi en français? Non, pas tout à fait. C'est loin. Loin. Ok? Loin. Loin de Dieu. Il est loin de quoi? Pardon? Oui, c'est l'onction, hein, c'est l'Esprit de Dieu, c'est vraiment, il est revêtu de la présence de Dieu, enfin voilà, tout ça c'est vrai. D'ailleurs, il y a une chose qui va changer prochainement dans ces signes-là, dans ces symboles. Tous ces symboles, c'est les symboles de l'Évangile. Mais il y a un symbole qui parfois est utilisé autrement. Enfin, l'image du symbole est autrement, bien que celle-là soit vraie. Mais qui, moi, me convient mieux dans notre histoire et dans notre doctrine. C'est lequel ? C'est celui qui est en jaune, là. C'est quoi celui qui est en jaune ? C'est la colombe. Et la colombe qui traduit quoi ? L'esprit, mais à un moment particulier de la vie de Jésus. Au moment du baptême, vous voyez ? Mais l'esprit, vous savez qu'il se manifeste de tout un tas de façons. Au moment du baptême, il est venu sous forme de colombe. Ok. Un symbole, parce que Dieu n'est pas une colombe, ok ? D'accord. Alors, vous voyez bien que c'est symbolique. Mais bon, sous forme de colombe. À un autre moment, il est apparu comment, l'esprit ? Langue de feu. Et c'est quoi à ce moment-là, langue de feu ? C'est l'onction à la Pentecôte sur les apôtres. Sister Aimée, là, qui a choisi ça, enfin dans Foursquare, elle a hésité entre la langue de feu et la colombe, parce que les deux sont vrais. Okay. Il y a l'un qui insiste un peu plus sur l'Église, la fondation de l'Église, l'autre sur la venue de Jésus. Mais on peut le traduire par d'autres symboles. Et un des symboles, c'est l'onction. Et c'est ça que j'ai découvert aux États-Unis, c'est qu'il y avait une famille chrétienne qui était avant Foursquare, qui était Fourfold Gospel, c'est-à-dire l'évangile quadrangle, malheureusement, on retombe sur le tétramorphe, hein, c'est le quadrangle tétramorphe, qui est l'huile, donc qui est traduit sous cette forme-là. Une cruche, hein, la cruche que versaient les prêtres dans l'Ancien Testament sur les rois, sur les prophètes, parfois, pour les oindre, pour les consacrer. Huile de consécration. Consécration. Je préfère ce symbole-là. C'est vrai qu'il couvre plus de manifestations de l'esprit que la Pentecôte ou que le baptême de Jésus, la colombe, parce qu'on est consacré comme prêtre au Seigneur. Amen. C'est cette notion de consécration. On est consacré à Dieu. Nous sommes un peuple de prêtres, de sacrificateurs pour Dieu. Amen. C'est ce à quoi nous sommes appelés, sachant qu'il y a tout un tas de manifestations, et on doit être ouvert à toutes les manifestations, que ce soit la Pentecôte, que ce soit les langues de feu, que ce soit tout ce que l'esprit peut faire, qui est extrêmement varié. Voilà. Ça, c'est un peu pour la petite histoire, pour dire qu'on mettra une cruche jaune pour manifester cette doctrine de la sanctification et de la consécration. Pour revenir au Messie, Jésus savait que sa mission, à ce moment-là, c'était d'être le Messie. Et quel Messie alors ? Souffrant. Dans Ésaïe, et ailleurs, dans l'Ancien Testament, vous avez cette parole prophétique qu'il y aurait un Messie souffrant et un Messie glorieux. Donc, vous voyez, il y a deux étapes. La seule chose, c'est que, ce que je vous disais, tous les prophètes se trompent dans le temps, parce que le temps n'existe pas pour Dieu et il ne nous est pas révélé. Il appartient à Dieu. Même Jésus ne savait pas à quel moment il allait revenir. Ses disciples voulaient le savoir. Il dit non, c'est mon Père. Donc, nous ne cherchons pas à savoir les temps, ce qui se passe et tout ça, parce que nous risquons de nous perdre complètement et de perdre le point focal de notre existence et de notre mission. Jésus savait qu'il devait être le Messie souffrant, sachant qu'un jour il sera le Messie glorieux. Mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Et en tant que Messie souffrant, il savait que si Satan allait l'emmener, Satan ou n'importe qui d'autre, le peuple, la foule, parce que la foule suit aussi le prince de ce monde, l'entraîner vers le Messie glorieux, il résisterait. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est très simple quand vous connaissez la stratégie de Satan, parce que Bon, c'est pas toujours au moment où vous êtes tenté, vous voyez que c'est Satan et le monde, mais au bout d'un moment, vous voyez où Satan vous pousse. Nous, on l'a vu avec Michel, quand on conduit une église, on a une responsabilité. Hein. Quand on conduit une famille, on a une responsabilité. Et quand on conduit une église, on a une plus grande responsabilité. Mais c'est la même chose. On sent, mais on ne sait pas toujours. Et donc, il faut. John Huber disait, il laisse le bouche, là, le buisson grandir, puis il coupe après. Ça, c'est de la sagesse, parce que sur le coup, des fois, vous ne savez pas. Est-ce que c'est Dieu ou pas? Mais si vous laissez grandir un petit peu, et que vous avez ça en tête, ah, ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? C'est clair, comme de l'eau de roche. Et nous, c'est arrivé, effectivement, dans les années où il y avait le rire de Toronto et tout ça. On l'a accueilli ici. Je crois que c'est la première église en France où on a connu ça, la grâce de Dieu. Et on est parti aux États-Unis, on est revenu un mois après. Bah, l'église était là. On dit waouh, mais c'est Satan qui conduit là. Ça va plus ça. Et effectivement, on a arrêté. Et après, bon, il y a des gens qui n'étaient plus d'accord, mais on a bien fait parce qu'effectivement, c'est une confirmation que Satan pousse toujours les choses plus loin où il retient. Vous voyez ? Mais il n'est jamais dans l'équilibre. Et il cherche les manifestations, on va le voir tout à l'heure, plus que la mission que le Seigneur nous a appelés à faire. Jésus a été appelé à une mission, il la connaissait, et il a pu résister à l'ennemi qui a voulu le faire passer dans la mission suivante, qui viendra un jour. Et donc c'est le sens de l'histoire. Donc il faut connaître le sens de l'histoire. Donc il y a un axe qui est l'histoire. Ici c'est la croix. Jésus savait qu'il venait là, mais il savait aussi que, eh bien, il viendrait de manière glorieuse. Mais cette période-là, c'est la période de l'Église. Et nous sommes dans cette période-là. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout parce que nous ne sommes pas enlevés. Ce que je sache, nous sommes ici sur la terre. Mission de Jésus qui a pu résister. Et quand Satan lui a dit, bien, je te mène. Et il l'a emmené sur les montagnes en disant, tous ces royaumes-là qui m'appartiennent, ils sont à toi. Waouh! Formidable quand même. À partir de là, il pouvait faire sa mission de convertir les gens, puisqu'il avait tous les royaumes. Mais non, ce n'était pas le temps de Dieu. Amen. Il fallait qu'il attende le temps de Dieu. Donc là, il était dans sa mission. La deuxième chose, c'est son identité. Il était fils de Dieu. Certes, mais à ce moment-là, pour faire cette mission-là, il était fils de l'homme. Okay ? Il devait accomplir cette mission de Messie souffrant en tant que fils de l'homme. Il fallait qu'il prenne sur lui tous les péchés du monde, nos péchés à nous, qui ont été portés par Jésus. Et ça, il l'a fait en tant que fils de l'homme. Il était comme nous. Il nous comprend, il nous connaît, il sait de quoi nous sommes faits et il a porté cela. Donc, en tant que fils de l'homme, il connaissait ses limites. Par contre, Satan voulait le placer en tant que fils de Dieu. Il dit, si tu es le fils de Dieu, que ces pierres deviennent du pain. Là, il a montré qu'il n'avait pas la convoitise de la chair. La convoitise valait du désir, voilà, il avait faim, il avait envie et tout ça. Mais il était soumis à Dieu, d'ailleurs, il a bien fait, puisque dès que Satan est parti, des anges sont venus le servir. Et il avait la foi dans son Père. Ici, il était aussi tenté en tant que fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, Jette-toi du haut du temple. C'était quoi cette tentation? Le temple, tout le temps, il était rempli de monde. Hier, j'ai parlé avec Christelle, une institutrice d'Épône, qui allait en Guadeloupe, avant qu'elle soit mariée tout le temps. Elle disait, le dimanche, dans les églises, surtout catholiques, du matin de 8h jusqu'à 20h, les gens sont là. Et voilà, ils font la fête. Enfin voilà, ce qu'on a vu hier, c'est leur lot. Voilà, c'est comme ça, c'est la culture. Et donc il y a du monde devant les églises. Ben là, c'est pareil. Devant le temple, mais tout le temps du monde. Tout le temps. C'est pareil, il y a un grand parvis. Et donc l'idée, c'était, non pas dans le désert, mais dans le temple, devant le temple, de sauter, de le faire sauter. Mais il faut imaginer la scène, hein, parce que nous, on voit des anges avec des ailes, à la limite avec des plumes. Bon. Mais la plupart du temps, les anges sont invisibles, vous êtes d'accord? Donc imaginez Jésus du haut du temple qui descend, porté par des anges, mais on ne les voit pas. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'imaginaire collectif qui est là pour... Qu'est-ce qui se passe? Jésus descend, il tombe. Attention, le temple, je ne sais pas quelle hauteur il avait. Quelqu'un qui est mathématicien, là. Je ne sais plus combien. Il est très haut. Hein. Je veux dire, quand on tombe naturellement, on meurt. Donc là, Jésus descend, et voilà. Qu'est-ce qui se passe dans l'imaginaire collectif? Essayez d'imaginer un peu. Déjà, c'est un héros. Un héros. Waouh. Et voir un demi-dieu. Si ce n'est pas un dieu. Vous voyez. Donc voilà, là, on passe entre le héros, voilà, qui est un gars qui s'est entraîné. Bon, on se rentrerait à voler, c'est un peu difficile. Hein, il faut avoir un peu d'amplitude pour avoir de l'aérodynamique. Mais bon, à la limite, un demi-dieu, c'est déjà bien. Mais certains l'ont pris pour un dieu. Vous voyez. Et donc la superstition. Je vous parlais tout à l'heure de Limoges. Superstition. Les gens sont superstitieux par nature. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à expliquer que là, Jésus, là, qui descend, il arrive en bas, vous voyez, il ne connaissait pas encore Newton. Enfin, il connaissait un tas de choses qui n'existaient pas dans la connaissance scientifique. Donc, il fallait qu'il donne une explication. Et tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer scientifiquement, on lui donne une explication surnaturelle. Ou méta. Physique, au-dessus de la physique. Enfin, tous ces mots-là, c'est dans le domaine occulte ou ésotérique, si vous voulez. Voilà, donc voilà, c'est cet imaginaire qui commence à travailler. Et Satan le sait, tout ça. Parce que lui, il manipule toutes ces choses-là avec une grande finesse. Donc il voulait que Jésus saute, que d'un seul coup, waouh, l'éclat de cet exploit leur fasse dire, mais c'est un héros! C'est un demi-dieu, il faut qu'on l'élève. Et Jésus avait la parole. Un demi-dieu qui parle, imaginez. Okay. C'est ça que Satan voulait. Et donc, il voulait le faire passer pour un héros qui défie la raison. Okay. La raison, admettons, alors j'imagine la scène. Jésus accepte la proposition de Satan. Il saute du temple, il arrive en bas, bien sûr porté par les anges, puisqu'il est fils de Dieu. Bien sûr, son père n'aurait pas laissé faire. Et donc, en bas, il arrive et il accueillit comme un héros. Bah, il avait effectivement sa mission de Messie, il pouvait la faire. Tout le monde allait l'écouter, vous êtes d'accord? Bah, voilà. Vous voyez, Satan est très malin. C'est son nom, malin. Il est très malin et il sait exploiter des situations où parfois on ne sait plus est-ce que c'est Dieu, c'est pas Dieu, c'est moi, c'est pas moi, c'est mon âme, c'est mon esprit, etc. Voilà. Et là, il faut ce qu'on appelle le discernement. Et Jésus avait du discernement parce qu'il voyait déjà où il voulait en venir. Là, c'est l'exemple d'un discernement. C'est vrai que ce Seigneur nous a fait passer par pas mal de difficultés avec Michel dans le pastorat. Et maintenant, je vois des choses, je dis, ah, ok, je sais où ça va. C'est plus facile que si vous êtes surpris. Parce que vous pouvez voir le loup venir, hein, ça bouge dans les bois, et puis petit à petit, vous voyez son petit nez, tout ça, voilà. Et puis vous pouvez intervenir avant, ce qui fait que les gens autour, ils ne voient rien. Donc ça se passe dans la paix. Il faut toujours faire ça dans la paix. Hein. Il ne faut jamais faire ça dans l'agitation parce que ça dérange tout le monde. Okay. Donc il faut voir, ok, vous avez un fusil à lunettes, et tac, terminé. Personne n'a rien vu, tac, vous avez ciblé le truc. C'est ça qu'il faut faire. Bah oui. Et Jésus faisait ça. Il dit, ah, la parole, Et lui, il avait la parole. Il est écrit. Toi, tu dis, il disait aux pharisiens, vous, vous dites, mais il est écrit. Parce que les pharisiens voulaient tout le temps le coincer. Vous voyez, si vous venez de Satan à pharisiens, vous pouvez faire la même analyse. Les pharisiens, tout le temps, voulaient le coincer. Et Jésus disait, vous, vous dites, moi, je vous dis. Vous voyez ? Parce que lui, il avait la pensée du Père, la pensée du... Alors venons-en à notre histoire d'Acte 14 pour illustrer ça avec Paul. Hein ? Et on a Jésus et là il y a Paul qui vit un peu les mêmes choses. Alors si vous lisez attentivement Acte 14, qu'est-ce que vous lisez ? Vous voyez qu'à Lystre se tenait assis un homme malade, impotent, et il écoutait parler Paul. Qui fixa les regards sur lui. C'est important d'être dans le détail. Dieu, quand il nous laisse sa parole, on peut être sûr qu'il ne nous trompe pas. Donc chaque détail de la parole est important. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce début de verset ? Qu'est-ce que vous pouvez discerner dans ce verset ? Allô ? Je vous préviens tout de suite que si vous ne discernez pas ces choses-là, vous avez du mal à avoir une intelligence spirituelle, voyez ? Parce que, en discernant, vous comprenez les choses spirituelles. Allô ? Oui, mais ça va plus loin que ça. Tu étais sur une bonne piste. Pardon ? Oui ? Oui ? Mais revenez bien au texte. De ce qui est écrit. Tiens, je vois que Philippe l'a sous les yeux. Tu peux le relire, juste c'est le début de ce... Peu importe, tu lis juste ce que tu as. Non, 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 après. Oui, oui. Top. Et écoutez. Voyez-vous, je vous ai dit, les mots sont importants. Je ne fais pas de la doctrine, de la théologie, je lis. C'est de l'analyse biblique. Il écoutait. Vous savez, quand on prêche, on voit les gens qui écoutent. Hein. Il écoutait. Et deuxièmement, il fixait. Vous voyez, c'est ça qui donne du sens au texte. Et qui donne du sens à la suite. C'est surtout ça. Parce que si vous n'êtes pas préparé à savoir ce qui se passe, vous interprétez les choses de mauvaise manière. Il écoutait, écoutez, écoute Israël. C'est une des premières choses que nous devons faire. Écouter, écouter. Écouter, ça veut dire entendre, mais comprendre aussi, c'est-à-dire prendre en soi. Voyez, comprendre. Écouter. L'écoute dispose à la foi. Parce que la foi vient de... Est-ce qu'on entend ? Ouais, vous faites de la théologie, là. Super. Il écoutait. Et ensuite, après, vous voyez qu'il avait la foi. Il n'y a pas de mystère. Mais tous les gens autour de lui, ils auraient pu écouter aussi ? Est-ce qu'ils ont écouté ? Ben non, non, vous pouvez dire non. Vous voyez, quand on lit bien la parole, on peut avoir des certitudes, pas des doutes. Parce que si vous avez des doutes, vous ne pouvez pas comprendre la parole. Il faut avoir des certitudes. Non, ils n'écoutaient pas. Pourquoi ? Parce que la suite le montre. La suite le montre. Ils l'ont pris, Paul, pour Hermès, et Barnabas pour Zeus. Vous imaginez ? Waouh ! C'est fort quand même. Vous connaissez, il y en a qui connaissent Zeus et Hermès ? C'est quoi leur fonction ? Dans la mythologie grecque. C'est quoi leur fonction ? Allô ? Hermès et Zeus. Zeus, il y a d'autres noms pour Zeus, c'est effectivement Jupiter, en latin. Alors, effectivement, c'est le dieu de l'Olympe. C'est le dieu suprême de l'Olympe. Alors, souvent, c'est l'éclair, le tonnerre, parce que tout ce qu'on n'arrivait pas à expliquer à l'époque du tonnerre, des éclairs et tout ça, on l'attribuait à des dieux. Donc le Dieu suprême, il avait, quand il parlait, le tonnerre, c'est Dieu qui parlait. Okay, c'est ce qu'on appelle... oui, croyance, je cherche l'aspect négatif de croyance. Superstition, voilà. Aujourd'hui, on sait d'où viennent les orages, on sait d'où vient le tonnerre. Vous voyez. C'est pour ça que les Français rationnels se moquent des chrétiens, parce qu'ils disent, mais la science explique tout ça. Okay, voilà. Donc il ne faut pas retomber là-dedans. Okay, ça, c'est une petite parenthèse. Zeus, le dieu suprême de l'Olympe, et Hermès, c'était quoi? Qui d'ailleurs s'appelle Mercure en France, hein, et c'est l'ange qui dirige la France, en parenthèse. Je dis ça parce que Martin de Tours, il avait une puissance d'évangélisation, et il disait qu'avec Mercure, c'était le plus dur. Et je suis d'accord avec lui, pour différentes raisons. Donc vous voyez, c'est quelqu'un, Mercure, enfin l'ange qui est derrière le... La puissance est très importante. Et Mercure, qu'est-ce qu'il faisait Hermès? C'était quoi? C'était un demi-dieu. C'était pas vraiment un dieu. C'était un ange. Vous voyez, c'était pas un dieu, c'était un ange. Et un ange qui d'ailleurs est représenté par ça, hein, si vous l'avez jamais vu. Hein. Le truc des médecins, là. Voilà. Voilà. C'est le caducé. Hein, le caducé, le truc magique, la baguette magique. Et c'est lui qui... fait l'intermédiaire entre les dieux de l'Olympe et les hommes. Les ailes, ouais. Et puis des ailes sur les chaussures et le caducé avec le casque avec les ailes. C'est ça. Voilà, vous le voyez dans beaucoup de représentations parce que c'est un dieu qui est très proche des hommes et qui transmet des dieux aux hommes. Hein. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé, en termes ésotériques en particulier. Bon, pour devenir Dieu, il faut utiliser la voie d'Hermès. Hermétisme, c'est d'ailleurs venait de ça, etc. Tout l'occultisme basé sur Hermès. Ceci étant, on a pris Paul pour Hermès. Pourquoi? Parce qu'il parlait. Parce que lui, il parle de la part de Dieu. Vous voyez un peu ce qu'il faut chercher. C'est ce qu'on appelle les paradigmes. Les paradigmes, c'est une vision du monde qui est formé par une mythologie, par une explication. Et les Grecs étaient très, très forts, ils nous ont transmis ça en français, très, très forts parce qu'ils avaient une explication de la métaphysique, ce qui est ce qu'on ne voit pas, extrêmement harmonieuse. Tout était rodé, quoi. Tout avait une explication. Ce qui fait que, systématiquement, ils avaient une explication, voilà, pour ce qui est l'invisible. Or, la Bible dit que pour être agréable à Dieu, il faut exercer quoi? La foi. Mais la foi, elle se base sur la connaissance de quoi? Sur le visible ou l'invisible? Sur l'invisible. Sur l'invisible. Vous n'avez pas besoin de foi pour aller chercher votre baguette. Vous êtes d'accord? Vous prenez votre petite pièce, vous achetez la baguette, vous n'avez pas besoin de foi pour aller prendre le train. Enfin, j'espère pour vous. Ok? Vous n'avez pas besoin de foi pour aller vous coucher dans votre lit. Vous voyez le lit, bon, si vous êtes là à côté, bon, vous remettez dessus. Bon, vous avez votre raison pour ça. Mais la foi, il le faut pour les choses invisibles, pour les promesses de Dieu. Ok? On est dans ce domaine-là. Donc il y en a qui ont la foi. Il y en a qui ont la foi. Donc là, je vais venir un petit dessin, si vous permettez, pour vous expliquer ça. Vous avez la personne qui cherche, okay, qui est sur la terre. Okay. Elle cherche son identité, sa mission, pourquoi elle existe. Et là, ses croyances. Donc voilà, son paradigme, toute une théorie de croyance sur ce qu'elle ne voit pas. Et à laquelle il faut donner une explication, parce que des fois, il y a des choses à quoi on attribue, je ne sais pas. Vos croyances vont vous aider à comprendre ça. Okay, le problème, c'est qu'elles sont toujours fausses. Hein, c'est ce qu'on appelle la naïveté. On est tous naïfs. Hein. Naïveté, c'est de croire des choses fausses, mais qu'on ne sait pas. Bon, comme ça, on est tranquille. On est sûr de soi, mais en fait, on est à côté de ses pompes. Donc, les croyances, dans toute société, il y a des croyances. Donc, ici, il y a un chrétien qui s'appelle Paul, mais demain... L'indice, c'est vous, au travail. Donc là, il y a un chrétien qui parle. Et comme il est en relation avec Dieu, ok, en relation avec Dieu, et Jésus, Père, le Fils, le Saint-Esprit, il est en relation, il parle de la part de Dieu, il est inspiré pour parler. D'accord ? Ensuite, la personne qui est là, en l'occurrence dans le passage ici, elle écoute. Ok ? Mais si elle écoute vraiment, elle entend le message qui vient de là. Et comme il y a une attente dans son cœur, une attente, il va recevoir la parole et il va exercer la foi. Vous voyez comment ça marche ? Mais la foi ne peut venir que si la personne a envie que ça vienne de Dieu et qu'il change de paradigme. Il faut être prêt à changer ses croyances. Celui qui est sûr de ses croyances, il n'arrivera jamais à avoir la foi. Il croira en ses croyances. Et c'est comme ça que la France d'aujourd'hui est toujours la même que celle du Moyen-Âge, et on revient même aux Celtes, et on revient même à l'adoration, ce qu'on appelle panthéisme, avec que Pan est le fils de Mercure, hein, tout ça c'est logique, et on fait du panthéisme. Et aujourd'hui, dans l'Église, nous, cette Église s'est détruite, heureusement Dieu l'a reconstruite, parce qu'une personne faisait du panthéisme. Et ça, je le sais, de source sûre. Donc, dès qu'on communie à la nature, au panthéisme, des croyances que voilà, il y a une puissance impersonnelle qui agit, on détruit. Parce qu'il y a un autre qui est là, qui s'appelle Satan. Et où est-ce qu'il est, Satan ? Ben, il est. Là, on est dans le troisième ciel. Et Satan est dans le deuxième ciel. Alors, je dessine comme ça. Voilà. Là, c'est le deuxième ciel. C'est pas le même. Dans le deuxième ciel, et avec toute sa cohorte d'anges et de démons, etc. Et lui, il veut nous faire chuter. C'est son objectif, de nous faire chuter, de nous faire croire autre chose. Et donc lui, il interfère avec les croyances. Okay ? Et là, on arrive à la notion de royaume, royaume de Dieu. Il y en a qui ont entendu parler du royaume de Dieu ? Ce qui était très intéressant, je fais une aparté, parce que j'ai découvert ça à Reading quand j'y étais, parce que j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que le Seigneur m'a montré précédemment, c'est que c'est très intéressant parce qu'il y a des choses qu'on redécouvre, vous voyez, au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur. Et vous savez que Jésus a commencé, enfin le Saint-Esprit a commencé à la Pentecôte, par les langues de feu, a créé l'Église. L'Église a commencé, bien qu'elle soit instituée par Jésus dans Matthieu 16, elle a commencé à la Pentecôte son démarrage véritable de l'Église. Et ici, il y a le retour de Jésus, où c'est la période de l'Église. Il y a eu un point, donc là, elle a évolué, et il y a un point qu'on appelle la réforme, réforme protestante. La réforme protestante, vous savez, Dieu s'inscrit dans le temps et dans l'humanité, hein, parce que nous sommes concernés. Donc il n'y a rien de magique, il n'y a rien de magique parce qu'il nous fait collaborer. Et dans chaque époque, il y a des blocages, il y a des choses, c'est pour ça qu'il n'y a rien de parfait. Dans un réveil, il n'y a rien de parfait. Le premier qui a établi les thèses de la réforme, c'est qui ? C'est Luther. Luther. Il a écrit combien de thèses ? Enfin, combien de thèses ? Donc Luther, en 1517, c'est là que ça, paf, le tocsin a sonné, et boum, tout a résonné dans le monde avec cette réforme. Il a écrit 95 thèses. Dieu est, le soli, etc. Voilà, voilà. Ça, il faut croire, et Dieu l'a inspiré. Lisez un peu son histoire, c'est extraordinaire. Quand il est, parce que, vous voyez, tous les royaumes du monde étaient contre lui. Il était placé devant la justice. Il y avait le pape, tous ses légats. Il y avait tous les... Aquin, il s'appelait Aquin, comment il s'appelait ? Charles Quint, à l'époque, qui était là, voilà, il y avait les groupes, etc. Et tac, il est dédessiné. Dieu a dit ses thèses. Et c'est dans la nuit, quand il était en prison, Dieu lui a dit ce qu'il fallait qu'il dise le matin. Et c'est la base de ses thèses. Okay ? C'est vraiment une révélation qu'il a reçue. C'est extraordinaire. Luther, 1517, il a établi les thèses de la réforme, mais il était pris lui-même dans un système de croyance. Du coup, il n'a pas pu complètement libérer la doctrine, toutes les doctrines. Donc, il a libéré les principales doctrines. Et c'est quoi ? C'est le rouge, là. C'est la croix. C'est la justification. Justification par la foi. D'accord ? Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, mais par la foi. Ça, c'est Luther. Hein. Tac ! Par contre, il a fait beaucoup de bêtises. Il était anti-juif, il était... voilà, pour les... parce que les seigneurs l'ont soutenu. Bon. Et il a persécuté qui ? Il faut le savoir. Les anabaptistes. C'est quoi les anabaptistes ? Les anabaptistes. Voilà. Pardon ? C'est ceux qui veulent baptiser les bébés. Les adultes. Ils étaient contre le baptême des bébés. Mais Luther ne pouvait pas à ce moment-là. Enfin, il ne pouvait pas. 100 ans avant, il y avait Jean Hus, qui l'a fait. Et il a terminé sur un bûcher. Il a brûlé comme une torche. Oui, mais c'est la vérité. Luther, il n'a pas brûlé comme une torche parce qu'il était protégé par les seigneurs. Mais du coup, s'il avait supprimé, là je fais de la rationalité, mais bon, je refais de l'histoire, mais s'il avait mis en place l'anabaptisme, à l'époque, les bébés, enfin tout le recensement était fait par l'Église. Il n'y avait pas l'État. Donc voilà, c'était légalement le seul moyen de savoir combien il y avait de gens dans le royaume, etc. Enfin bref, je vous passe les détails. Et du coup, les anabaptistes étaient persécutés. Un des plus grands anabaptistes qui était à ce moment-là, c'était Zwingli. Zwingli en Suisse. Okay. Mais ils étaient persécutés. Il est mort. Voilà. Bon, je vous passe les détails. Hein. Je ne fais pas de l'histoire biblique ce matin ou de l'Église. Mais il y en a tout plein. Donc les anabaptistes étaient mis de côté. Mais plus tard, ils ont redécouvert. Enfin, ils ont permis à l'Église de. Donc la première chose, c'est ce qui est très très fort, c'est le salut. La justification, je suis justifié par la foi, pas par les... La deuxième grande révélation est venue par Calvin. Calvin, qui était un Français, qui s'est réfugié en Suisse, 1536, il a écrit l'Institution chrétienne. C'est une somme théologique qui aujourd'hui est la première somme théologique chrétienne, qui fait date sur l'Église. Et qu'est-ce que lui, il a mis l'accent particulièrement ? Oui, organisation de l'Église. C'est le peuple de l'Alliance. C'est vraiment son truc. Peuple de l'Alliance. Nous sommes un peuple de l'Alliance. Alors bon, là-dessus, ça résume pas tout, hein, mais en gros, c'est ça. Donc, il a mis en évidence le deuxième mission, enfin le deuxième domaine de Jésus, c'est l'Alliance, la coupe de l'Alliance. L'Alliance par le sang de Jésus. Nous sommes dans la nouvelle Alliance. Et il a vraiment établi les principes. Mais les anabaptistes étaient toujours persécutés. Donc, 1536, voilà. Et ensuite, après, il y en avait un autre qui est apparu plus tard, en 1750. Enfin bon, là, les dates sont un peu... Parce que c'est un écrit qui se fait dans les années. C'est John Wesley. John Wesley. Il y en a qui ont entendu parler de John Wesley ? De 1700, en gros, c'est le 18e siècle. Hein. Il est mort juste après la Révolution française, 1791. Et John Wesley, c'était un prêtre anglican en Angleterre, et qui a... Tout le monde est sûr que c'est grâce à lui qu'il n'y a pas eu de révolution en Angleterre, comme il y a eu une révolution en France, pour dire que c'était puissant. Et John Wesley, qu'est-ce qu'il a restauré dans ses 4 évangiles ? Pardon ? Méthodisme, oui, le méthodisme, c'est le mouvement C'est la sobriquet, en fait. Hein. Ce n'est pas lui qui l'a dit. La sobriquet qu'on leur a donné parce qu'il était très méthodique. Donc on a appelé ça le méthodisme. Mais qu'est-ce qu'il a restauré? Pardon? Non, pas vraiment. C'est la consécration, la sanctification, holiness. C'est la perfection chrétienne, si vous voulez. C'est aussi ce que les gens, en particulier les francs-maçonneries, cherchent, perfectionner l'homme, hein, perfection chrétienne. Donc ils appellent ça la perfection chrétienne. Et c'est le domaine de la consécration. Hein, c'est le fameux, la fameuse cruche là, qui le signe, c'est l'onction, la consécration. Mais c'était déjà quelque chose qui était dit par Zwingli et en particulier par Meno. Meno, ça a donné Ménonite. Il s'appelle Meno, je ne sais plus son prénom. Ménonite, c'est là, c'est en 1575, je crois, qu'il est apparu. Donc fin du XVIe siècle, mais il avait déjà parlé de cette consécration, parce que bon, ça c'est vraiment les évangéliques de l'époque, si vous voulez, qui voulaient avoir une réforme radicale. Mais ils ne l'ont pas obtenu, c'est venu au cours du temps. Donc ici est apparu le troisième symbole, la consécration. Et il en manquait un dans l'histoire de la révélation, c'est quoi? Non, parce que, bon là, j'ai pas le temps hein, de vous raconter tout ça, donc je reviendrai là-dessus, il y a un lien avec le Saint-Esprit. Mais il y a un dernier symbole qui est restauré de manière magistrale par une réforme théologique, c'est celle du bout là, la couronne là, le royaume de Dieu. Okay, on parle de royaume de Dieu. Non, j'ai pas entendu, hein, excusez-moi. Si vous... je suis désolé si vous dites des bonnes réponses, des fois j'entends pas, c'est pas parce que je vous ignore, parce que j'entends vraiment pas. Royaume de Dieu. Pourquoi on parle royaume de Dieu, royaume de Dieu, royaume de Dieu, etc. Ça a toujours existé. Les Bibles là, elles ont été écrites au premier siècle, hein, ok. Et royaume de Dieu, d'un seul coup, on en parle partout. Mais d'où est-ce que ça vient? Parce qu'il y a quelqu'un qui a réformé théologiquement, solidement. Pas uniquement les expériences, solidement. Et c'est quelqu'un que vous devez connaître, ou que devriez connaître, en tout cas. Moi, j'étais révolutionné par cette lecture. C'est là-dessus que, disons, mon pastorat s'est appuyé, hein, s'appuie toujours aujourd'hui. C'est George Ladd. George Eldon Ladd. En 1975. Oui, donc c'est récent. Oui, il faut du temps hein, pour restaurer complètement le quadruple évangile de Jésus. George Eldon Ladd, il est connu, il est reconnu par tous les chrétiens, catholiques, protestants, anglicans, évangéliques, tout le monde. C'est le livre de base de Vaux-sur-Seine, pour tout vous dire, qui est le, et puis d'Aix, hein, sur le Nouveau Testament. Quand vous prenez un cours du Nouveau Testament, c'est George Eldon Ladd. Donc, charismatique, peu importe, c'est un fondement théologique solide sur le royaume de Dieu. Et moi, je le consulte sans arrêt. Sans arrêt, parce que c'est vraiment ça. Si vous voulez faire des progrès, disons, dans le domaine doctrinal, théologique, lisez ça. C'est pas très long, il y a trois livres à lire, mais extraordinaire. Parce qu'il met en relief, non pas des nouveautés, mais il met en relief ce qui est marqué dans la Bible. Et hop, vous avez un filtre, le filtre du royaume de Dieu. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand avec mon épouse, on est allé écouter John Wimber, qui avant de faire des miracles, il parlait pendant une heure sur le royaume de Dieu de George Ladd. Parce que lui, il était collègue avec George Ladd, à Fuller Seminary, en Californie, et il était imprégné de ça. Et du coup, ça lui donnait une assise théologique sur les miracles, les signes et les miracles. C'est les signes et les miracles. Aujourd'hui, les signes et les miracles sont possibles, comme à l'époque de Paul. Oui. Parce que Dieu règne. Il règne. Alors, le problème, c'est là, il faut bien comprendre son règne. Il règne. D'accord ? Dieu règne. Alors, il règne sur quoi? Il règne dans le ciel, troisième ciel, deuxième ciel, il règne sur la terre et sous la terre. Il règne partout. Sauf que, comment est-ce qu'il faut expliquer le règne de Satan ? C'est un règne aussi, c'est un autre maître. Comment vous expliquez que Dieu règne et que Satan règne ? C'est là, George Land, il vient à votre secours. Parce qu'il a étudié ça et il vous l'explique selon les Écritures. Il y a quelqu'un qui a une explication ? Tout simplement parce que le mot « monde », il faut l'associer à « sarx ». C'est en grec. Hein. Et « sarx », c'est la chair, traduit en français. Ok ? Voilà. C'est pour ça, dans l'évangile de Jean, il dit « celui qui aime le monde, celui qui aime la chair, celui qui est conduit par la chair ». C'est pour ça, le TQP, j'insiste, il commence par le premier « marcher selon l'esprit et pas par la chair ». Pas le monde. Tout ça, c'est des synonymes. La chair, le monde, tout ça. Parce que le monde et la chair, c'est Satan qui règne sur le monde. Okay ? Mais le monde, c'est quoi ? Ben, c'est pas une réalité. C'est une illusion. Ce sont tous les systèmes de croyance. Voilà. Il règne sur tous les systèmes de croyance qui sont dans la chair pour mentir. Okay ? C'est un menteur. Okay ? Il ne règne pas sur les réalités physiques, elles appartiennent à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Quand il dit « tempête, arrête », la tempête s'arrête. Mais il règne sur les erreurs. Et sur toutes nos erreurs, il règne. C'est pour ça qu'il faut sortir des erreurs. C'est pour ça que le droit est très important de dire « Seigneur, maintenant, enfin, voilà, je renonce à cette erreur et j'accepte cette vérité. » C'est la vérité qui libère. Okay ? La vérité de Dieu, la vérité en Jésus, il a dit « Je suis le chemin, la vérité », il confond les croyances de manière à ce que celui qui écoute ne soit pas conditionné par les croyances et dire « c'est Zeus et Hermès voilà, », qui est une aberration, alors que dire « c'est Dieu » et il passe par la foi. Ok ? Vous avez compris ? Le mécanisme, je m'arrête là. C'est un mécanisme, il faut comprendre que le règne s'appelle basiléa en grec, hein, dans le basiléa. Le basiléa et le kérim, hein, c'est les deux mots importants dans la notion du royaume de Dieu. Le kérim, c'est la proclamation de la parole. Et donc ça, c'est le kérim, la proclamation, proclamer. Mais si vous le proclamez étant en Jésus, la proclamation a de la valeur, parce qu'elle est appuyée par le Saint-Esprit. Et le basiléa, c'est le règne de Dieu. Il règne, mais pour ceux qui se soumettent à son règne. Donc il est roi, mais en attendant ceux qui sont rebelles, qui écoutent les erreurs, qui croient aux erreurs et qui restent dans les erreurs, c'est Satan qui règne. Mais c'est un règne illusoire, puisqu'il s'arrêtera, tout sera détruit, parce que Satan sera détruit et tous les règnes seront détruits, et ceux qui sont là disent « Ah, mais on croyait que c'était vrai. » Mais réveillez-vous avant. Hein. Réveillez-vous avant. Avant que le cauchemar ne tourne aux catastrophes. Voyez, il faut sortir de notre cauchemar. Alors là, je parle pour les inconvertis, mais aussi pour nous. Nous sommes tous dans une sorte de cauchemar, de croyance, de choses comme ça. Et c'est là qu'il faut en sortir pour rentrer dans le règne qui est véritable, qui est réel, qui est le règne de la justice de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu nous as donné encore un élément de connaissance sur ta parole, au travers de Paul qui a pu opérer ce miracle parce qu'il a eu une écoute de la part de cet homme qui a saisi par la foi la guérison. Et Seigneur, tu l'as utilisé pour manifester ta gloire. Seigneur, nous voulons toujours être tournés vers la gloire de ton nom, Seigneur. Non pas notre gloire, non pas notre recherche personnelle, mais vraiment ta gloire. Et pour cela, Seigneur, nous sommes simplement des serviteurs. Nous sommes simplement, Seigneur, des ouvriers qui laissons agir, Seigneur, ta parole en nous, Seigneur. Donne-nous d'avoir une parole acérée, une parole, Seigneur, qui ne soit pas altérée par les choses ou par nos croyances, mais vraiment que nous puissions donner cette parole authentique qui touche les cœurs et qui les amène à la foi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.